Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous. J'aimerais aborder un sujet ce matin qui n'est pas fréquent et qui pourtant fait partie des grands thèmes de la Bible. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une période où le monde pense aux souvenirs, à travers certaines célébrations du souvenir. Je pense particulièrement à ces fêtes religieuses, à ces fêtes qui font une place à la mort. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la mort, je vais vous parler de la vie. Quand même. Le monde se nourrit de toutes sortes de choses, des souvenirs. Il y a certaines commémorations qui sont tout à fait légitimes, mais il y en a d'autres qui sont des exploitations. Je ne peux pas dire autre chose. Vous savez, je suis un révolutionnaire. Alors, il faut remettre les choses en place. Alors, je vous demanderai de faire un petit effort parce que c'est un sujet doctrinal que je vais apporter ce matin. Une étude, on la continuera peut-être à travers le temps. Mais je crois que les chrétiens que nous sommes, convertis à Jésus-Christ, nous avons besoin de revenir aux fondamentaux et des enseignements de ce que nous donne l'Évangile, la parole de Jésus, le Nouveau Testament, parce que nous ne vivons pas seulement avec une espérance terrestre, mais nous vivons avec une espérance céleste. Nous avons chanté ce dernier cantique, « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'un jour je le verrai, et que je serai semblable à lui. » Alors, on va prendre notre temps, et on prendra le temps nécessaire pour cette étude, parce qu'on parle de beaucoup de choses dans nos églises. On parle de la vie, on parle des soucis, on parle du salut, c'est tout à fait normal, c'est la préparation élémentaire. Mais est-ce que l'on parle souvent du ciel? Est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que nous avons surtout, nous savons où nous allons, mais est-ce que nous avons cette conviction profonde dans notre cœur que notre destination, c'est la présence de Dieu? Pendant des siècles, les églises chrétiennes, ayant abandonné le message de la Bible, de la parole de Dieu, se sont évertuées à faire peur aux gens, en parlant de l'enfer, en parlant du feu, en parlant des tourments, en parlant d'un Dieu qui juge, qui punit, qui finalement, nous sépare de lui. Et les gens, quelquefois, se sont tournés vers Dieu, mais avec la crainte et la peur. Ce sont des fausses conversions, puisque l'Évangile nous tient le langage suivant, que le Seigneur nous attire non pas par la peur ou la crainte du jugement, mais il nous attire par son amour. Nous avons été vaincus par son amour. Et ça, c'est des choses qu'il faut remettre en place. Aujourd'hui, le monde va parler d'Halloween. Nous, on ne cultive pas les citrouilles. Et puis tout ce genre de légendes, surtout que cette fête a pour origine le monde protestant. Quand même, le monde protestant qui connaît la parole de Dieu, pour en faire une fête d'épouvante, que l'on apprend, et ça commence par les enfants. Alors, les fêtes chrétiennes, que ce soit Noël, on est d'accord, que ce soit Pâques, mais quand on en arrive à des épouvantes comme Halloween ou la Toussaint, qui est une invention religieuse. Où là, il est tout à fait normal de nous souvenir de ceux qui nous ont précédés, que l'on aime, que l'on a aimé, qui nous ont donné la vie. Je pense qu'il faut honorer la mémoire. Mais de là à raconter toutes sortes d'histoires et toutes sortes de légendes, et en occultant notre véritable destination, parce que notre destination, elle est comme le lot de tous les hommes, c'est-à-dire que nous allons mourir. D'accord ? Personne ne me répond. C'est que vous avez bien compris la chose. Mais il y a une chose qui fait la différence entre celui qui connaît Jésus et celui qui ne le connaît pas. Et je voudrais mettre en parallèle, mais surtout me focaliser aujourd'hui dans cette premier examen, on pourrait dire, la destinée des croyants qui sont en Jésus-Christ, qui sont sauvés par Jésus-Christ, on les appelle les sauvés, voilà, les rachetés de Dieu. Hein. Ça, c'est notre affaire, c'est nous ça. Et puis il y a la destinée en dehors de Jésus-Christ. Et ça, je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est bien que ça soit une doctrine de la Bible. Mais nous avons besoin d'être réconfortés, nous avons besoin de nourrir notre espérance et de tressaillir de joie du monde qui nous attend. À moins que nous soyons en suffisance d'un monde où il y a du sang, de la guerre, il y a des tourments, il y a toutes sortes de turpitudes. Et si nous sommes comme des poissons dans l'eau dans ce monde-là, moi j'y suis pas. Et nous y vivons pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Nous sommes là comme des témoins de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour apporter une bonne nouvelle qui réjouit, une nouvelle d'espérance, une nouvelle qui donne de l'espoir aux hommes. Et ça, c'est important. Alors, nous allons parler de la destinée des croyants qui ont foi en Jésus-Christ. Et c'est important. J'aimerais que nous fassions une première lecture, et vous la connaissez. Je ne vais pas faire le commentaire du texte, je vais prendre seulement un verset qui nous intéresse aujourd'hui. Dans Luc, chapitre 16, verset 19. Alors, vous le connaissez. Elle est unique. Elle n'est pas dans les autres évangiles, mais elle est là. C'est un coin du Louvain qui est élevé pour, eh bien, tout simplement nous montrer qui y a-t-il après la mort. Ou la vie, plutôt. Qui y a-t-il après la vie? Et on va le découvrir ensemble. Alors, je lis. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ainsi aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Voilà, on la connaît, hein, cette parabole. C'est une image, naturellement, mais qui a sa raison d'être. La première chose que je voudrais dire, c'est que le riche n'est pas perdu parce qu'il était riche. Je crois qu'il y a des riches qui sont sauvés. Parce qu'on est sauvé par la foi, uniquement par la foi. Et il y a des hommes qui sont riches et qui peuvent avoir la foi. Donc le riche n'est pas sauvé pour avoir été riche et heureux, et Lazare n'est pas... Enfin, il n'est pas perdu le riche, excusez-moi, je rectifie, hein, je me suis trompé. Le riche n'est pas perdu parce qu'il était riche et heureux, Lazare n'est pas sauvé parce qu'il a souffert et qu'il est malheureux. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles à remettre en place. Le premier, c'est qu'il a été égoïste, il est perdu parce qu'il a été égoïste et sans cœur, à tel point qu'à sa porte, il y avait un pauvre homme qui n'avait même pas de quoi manger, et il est rabaissé en dessous les chiens. Il est perdu parce que finalement, joyeux et brillant de lui, il s'est jamais occupé des autres, et il avait le quoi faire le bien. Le second, qui s'appelle Lazare, son nom veut dire ce que ça veut dire. dans sa misère, Lazare a été secouru par Dieu. Parce que Lazare, Éléazar, ça veut dire le secours de Dieu, la consolation de Dieu, le soutien de Dieu. Dieu est ma consolation. C'est parce que lui, il n'avait rien sur la terre, mais il avait une espérance au ciel. Et c'est ce qui fait la différence. Le jour où Lazare est mort, dans l'anonymat, on l'a pris, on l'a jeté dans un trou. Par contre, le riche avait beaucoup de monde autour de lui, enfin, le jour de ses obsèques, de son enterrement, et ça a été fait en grande pompe. Par contre, Lazare, il nous a dit qu'il était transporté par les anges dans le ciel. Alors, ce sont des petites choses qui sont à dire dès le départ. Et en reprenant justement ce commentaire d'une simple phrase qui est la suivante, il nous est dit que Lazare, le pauvre, mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ça ce qui nous intéresse. On va pas s'occuper du riche, on va s'occuper de Lazare. Mais Jésus l'avait prévenu hein, quand il a dit « l'un s'a pris, l'autre laissé ». Et qu'est-ce qui fait la différence? Non pas que Dieu fait du favoritisme entre celui-ci ou celui-là. L'un parce qu'il est riche, il est perdu. L'autre parce qu'il est pauvre, eh bien il sera sauvé. Et ça aurait pu être exactement le contraire. Le pauvre mourut, je le répète, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Une précision, c'est une étude hein, ce matin. L'expression « sein d'Abraham » a un sens pour les Juifs. Nous, on dira autrement, et c'est la même chose. Abraham était considéré par le peuple d'Israël comme le personnage le plus vénéré, l'homme de foi, le père de la foi. Et être dans sa présence dans l'au-delà, eh bien, c'est tout simplement se conçoit comme un honneur et un bonheur. Pour l'israélite qui était Lazare, parce que Lazare c'était un juif. Et le saint d'Abraham, pour lui, ça voulait dire, eh bien, le paradis, le ciel, la présence de Dieu. De même que Jésus, pour nous les chrétiens du Nouveau Testament, et qui plus est converti, en ayant accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est Jésus, c'est plus Abraham, mais c'est Jésus qui règne dans le ciel, et c'est vers Jésus que nous allons. Il est notre destination dans ce que l'on peut appeler le royaume de Dieu, le royaume des cieux, royaume de Dieu ici-bas, déjà dans notre cœur, pour rentrer dans le royaume des cieux, dans l'autre dimension. Parce que Jésus illustre, pour les chrétiens, et nous avons, et nous allons voir les textes d'ici quelques instants, il illustre la félicité céleste. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de comparable entre notre vie sur la terre et notre vie dans l'au-delà, donc la félicité céleste, sous l'image que Jésus nous donne, très souvent dans l'évangile, d'un banquet sans fin de bonheur et de paix. Un roi avait fait un banquet, il avait invité ses amis, etc. Vous les retrouvez dans l'évangile, tout cela. Hein. Donc, et le banquet, c'est l'image de la réunion, c'est l'image de la communion, c'est l'image du bonheur, en quelque sorte. Hein. Et quand les gens veulent être heureux en famille, eh bien, ils se retrouvent autour d'une table. C'est ce que Jésus prend, et un bonheur et une joie ineffable nous est donné, nous est promise. Je voudrais dire quelque chose, hein, parce qu'il faut, on peut pas aborder le sujet sans que je remette certaines vérités évidentes en place, si l'on veut bien saisir ce message. L'homme, les hommes que nous sommes des êtres tripartites, c'est-à-dire en trois dimensions. Comme dans le ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme a été créé un être tripartite, un corps, la matière, et une vie intérieure qui est composée d'une âme et d'un esprit. Et cette âme et cet esprit sont distincts. L'âme, c'est une chose, l'esprit, c'est une chose, interagissant entre eux et inséparables. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps en grec, soma, c'est la chair et les os avec nos cinq sens qui nous permettent d'avoir contact autour de nous. L'âme, psyché en grec, c'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'intelligence et de la volonté, et bien d'autres encore, autre chose certainement. Donc, le corps, la chair et les os et les cinq sens, l'âme, psyché, le siège de la pensée, des émotions, de l'intelligence, de la volonté. Et nous savons, d'après ce que nous dit Jésus, d'ailleurs nous en avons la preuve, parce que si nous lisons entre les lignes, nous comprenons bien la mort de Lazare et du mauvais riche, hein, à travers leur disparition. L'âme continue à vivre quand le corps est mort. D'accord? Et ça, c'est important que vous le sachiez. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit « Je te remets mon esprit entre tes mains ». Il n'y a pas seulement que, souvent dans cette façon de parler, « Je remets mon âme », tout le monde dit ça. Alors que Jésus a dit « Je remets mon esprit », parce que l'esprit est supérieur à l'âme, quoi qu'il en soit. Donc il continue, l'âme continue à vivre, même quand le corps est mort. L'esprit, pneuma, le souffle, si vous voulez aller par là, c'est la partie que Dieu nous a donnée à chacun, capable de communiquer avec le monde spirituel, le monde divin et le monde malin, par l'esprit. Les spirites, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein ? C'est des communications avec le monde des ténèbres et le monde de l'au-delà, mais mauvais et méchant, ténébreux. Maintenant, le chrétien, nous avons été redirigés, nous avons été replacés dans le contexte de la volonté de notre Créateur, c'est-à-dire d'avoir un contact avec lui. Et c'est pour cela que il est besoin de bien comprendre la doctrine de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle naissance, c'est une naissance à un autre niveau. Je voudrais rappeler également quelque chose. Nous avons connu et nous connaîtrons trois états. Il y a l'état embryonnaire, la pré-vie. Pas l'après, mais la pré-vie, avant la vie. L'état embryonnaire dans le sein de notre mère. Vous en avez des souvenirs ? Bon. Il y a l'état terrestre, c'est-à-dire notre existence physique. Nous avons été dotés, quand nous sommes venus sur cette terre, d'un corps avec toutes ses propriétés humaines. Nous ne sommes pas des animaux, hein. Comme Dieu l'a voulu, nous avons été faits sur le plan moral à l'image de Dieu. Donc, il y a l'état embryonnaire, il y a l'état terrestre, donc l'existence où petit à petit nous avons découvert finalement, eh bien, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et nous sommes renfermés dans ce monde-là, et nous allons, et c'est ce que nous allons voir maintenant, l'état céleste. Et on va prendre chronologiquement les choses, à partir de ce que nous sommes aujourd'hui des hommes sur cette terre, et qui vivons, eh bien là, ce à quoi nous avons été appelés. Il y a trois entités distinctes, mais une unité chez un homme, le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas trop compliqué, ça va, pour l'instant? La Bible nous enseigne clairement la destinée future des croyants. Ou alors nous n'avons jamais lu la Bible. Ou alors nous n'avons jamais pris garde lorsque nous chantons ces cantiques comme le dernier. Parce que il y a là une réalité et qu'il faut enseigner et qui a souvent été un peu négligée. Et pourtant, il y a des références. Il y a une somme extraordinaire dans la doctrine de la destinée future des chrétiens qui est extraordinaire dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, si on veut aller, mais on ne va pas aller dans l'Ancien Testament, on va rester dans le Nouveau Testament. J'aimerais aborder quelques points dans un premier temps. On verra ça plutôt ultérieurement après, une autre fois. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Nous vivrons, frères et sœurs, par-delà notre propre mort sur cette terre. D'accord ? Nous avons été appelés à vivre au-delà de notre propre mort. Nous ne serons plus jamais seuls. S'il y a des solitudes dévastatrices de certains dans ce monde, des abandons, des trahisons, toutes sortes de choses, nous ne serons plus jamais seuls. Sa présence, la présence de Jésus, nous est acquise dès maintenant. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, mais il n'y aura plus de jour de l'autre côté. Ce sera l'éternité. Et Jésus demeurera celui qui sera à nos côtés en permanence. Présence pour toujours. Dans l'attente de la résurrection, parce que ce sont des mots qui sont difficiles à comprendre et on peut le deviner. Lorsque nous quittons cette terre, pudiquement, nous rentrons dans ce que la Bible appelle, et je prends les mots de la Bible, le sommeil de la mort, entre guillemets. Ce n'est pas un sommeil de mort, c'est un sommeil dans une autre vie. Il y a une assurance. Nous sommes passés de la mort à la vie par notre conversion. Et on pourrait dire que Dieu a déjà donné les prémices dans la nature. Quand il y a les saisons, là nous allons rentrer dans une saison qui va faire mourir la nature, mais qui va ressurgir. Encore plus belle, encore plus forte. D'une manière extraordinaire, nous sommes passés de la mort à la vie. Exactement. Et ça, c'est important. Et dans le raisonnement humain, les hommes qui ne sont pas cette destinée en Jésus-Christ parlent de la vie à la mort. Nous, ce n'est pas notre cas, nous croyons autre chose. Nous donnerons quelques mots de caractéristiques du corps ressuscité. Ouh là là, on s'aventure dans des choses assez difficiles aujourd'hui. Mais écoutez bien, parce que moi je m'en tiens à la parole. Je ne suis pas parti faire des recherches ou des analyses dans autre chose que ce que nous dit la Bible. Et c'est important parce que c'est là où se fonde notre foi. Et c'est là où peut-être la peur de certains sera évacuée. C'est ce que Jésus dit. Jésus nous a dit la vérité. Et moi, je me tiens à la vérité que Jésus nous donne. Caractéristique du corps ressuscité, que sera-t-il? Alors là, on se reconnaît les uns et les autres, hein, en fonction de ce que nous voyons de l'un et de l'autre. Et il y a également une autre question que nous aborderons, c'est le lieu de notre bonheur. Je dis pas de notre malheur, de notre bonheur. Où seront les chrétiens qui sont morts et qui maintenant sont dans la présence de Jésus? Le coin du voile se lève sur une autre question, les caractéristiques des demeures célestes. Où habiterons-nous? Nous avons tous un domicile qui nous convient ou qui ne nous convient pas ou peu, mais enfin peu importe, hein. Mais nous avons tous un domicile. Un domicile terrestre. La Bible parlera de tentes, de choses précaires, d'habitations en argile qui disparaissent, hein, de toute façon. Ça ne dure pas tout ça. Et elle nous parle des demeures célestes. Et puis si le temps nous est donné encore un petit peu tout à l'heure, parce que on verra, il y a tellement de choses. Les conditions du ciel, ça sera la joie, le repos et la gloire. Alors nous allons maintenant passer à cette étude. La destinée futur des croyants. Je vais vous donner quelques versets. Il va y avoir quelques versets. Dans 1 Jean, il nous est dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On est d'accord sur le principe. Celui qui demeure et qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde et tout ce qu'il contient passera. Mais le croyant demeurera et préparé pour l'éternité. Un autre point. Jésus, c'est Jésus qui parle et qui nous dit ceci. Jésus, donc, dit à un homme, voilà, dans le contexte, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même, vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et c'est à Marie qu'il dit ça. « Crois-tu cela ?» Parce que c'est le fondement même de notre vie éternelle, de notre destination céleste. Jésus dit d'abord, je suis, moi, la résurrection et la vie. Nul autre. Je suis cette résurrection et la vie. Et celui qui croit, et celui qui vit ce qu'il croit, eh bien, il vivra quand même, il serait mort. Ça, c'est curieux, parce que bon, on a l'habitude, et on sait très bien ce que veut dire la mort, hein. C'est l'inertie, finalement, d'un corps qui va disparaître, qui va se dissoudre. Mais Jésus nous dit bien que c'est encore dans une autre dimension qu'il parle, et pour le comprendre. C'était au moment où Lazare est mort. Il a donné cet enseignement. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs, je voudrais affirmer que vous ne mourrez jamais si vous croyez et si vous vivez de la vie de Jésus. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'une conversion. On n'appartient pas à une église, centre évangélique et tout ce que vous voudrez. Église protestante ou tout ce que vous voudrez, ou église catholique, orthodoxe, tout ce que vous voudrez. Non, on appartient à Jésus. Sa parole est l'autorité de notre foi. Ses promesses sont là pour nous donner l'espérance d'une autre vie après laquelle nous soupirons. Malheureux que sont les hommes sur cette terre. On est abreuvé tous les jours de choses abominables et affreuses. Un peu plus loin, Jésus dit, en vérité, je te le dis, ou je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Nous serrons cette parole sur notre cœur. Nous gardons la parole, et autant que nous puissions, et autant que Dieu nous donnera le souffle, nous les prédicateurs et les pasteurs, une chose, nous n'allons pas transformer ces églises en syndicats ou en associations humaines, philanthropiques et tout ce que vous voudrez, mais la priorité des priorités, que ce soit le dimanche matin ou dans les réunions d'évangélisation, et même dans les réunions de prière où la parole est à l'honneur et elle a sa première place. Si quelqu'un garde ma parole, c'est pas de l'avoir à la bouche, mais de la vivre. Il ne verra jamais la mort. Mes frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, moi je voudrais vous dire, vous ne verrez pas la mort, la vraie mort. Oui, celle qui est destinée à ceux qui sont en dehors du plan de Dieu, en dehors de Jésus-Christ. celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Et il ne mourra jamais par-delà ce que nous avons dit précédemment parce qu'il garde sa parole. Les croyants qui disparaissent, nos frères et nos sœurs que nous aimons, que nous avons aimés, qui ont été peut-être même nos accompagnateurs dans nos premiers pas de la vie spirituelle, il y en a, on en a connu. Eh bien, il nous est dit que les croyants en Christ s'endorment. De quel sommeil s'agit-il ? Ils s'endorment, ils ne meurent jamais. Et c'est Paul qui dira ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, comme il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de légendes, beaucoup de suppositions, beaucoup de choses qui ont été brodées autour de la mort. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ça veut dire au sujet de vos frères, de vos sœurs, vos bien-aimés chrétiens, qui maintenant, eh bien, sont morts, c'est vrai. Mais ils ne sont pas seulement morts, ils dorment. Ils attendent quelque chose. Afin que vous ne vous affligiez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Le Seigneur nous prévient de tout cela. L'apôtre Paul confessera également son propre témoignage de chrétien. Il dira « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Oui, c'est ce qu'il dit, ce qui sera de beaucoup le meilleur pour moi. L'apôtre Paul était un homme extraordinaire, formidable, mais c'était un homme. Un homme qui a prêché l'évangile, qui est probablement mort relativement jeune, mais à l'époque ça pouvait peut-être se concevoir. Mais un homme qui jour et nuit a eu à cœur de prêcher la parole de Dieu. Il dira « L'amour de Christ me presse ». Et quelquefois il se posait la question devant les tourments qui nous sont racontés dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand il dira « Mais il l'a persécuté, on a essayé de faire toutes sortes de tentatives d'assassinat sur sa personne, toutes sortes de gens lui ont voulu du mal ». Il disait « Mais en considérant cette vie, mais moi je serai mieux encore avec le Seigneur parce que ce sera véritablement la délivrance ». Mourir, mes frères et sœurs, c'est une véritable délivrance. Oui. Alors on la ressent pas quand on est une vie somme toute normale et heureuse. Mais vous savez, il y a des gens qui sont sur les routes actuellement. Il y a des milliers de gens qui n'ont pas ce que nous avons. Quelquefois, ils peuvent soupirer. Nos frères et nos sœurs de la Réforme au 15e siècle ou 16e siècle, qui étaient persécutés dans les montagnes, dans les Cévennes, et puis partout dans l'Europe à l'époque, les guerres de religion, je peux vous dire qu'ils aspiraient qu'à une chose. C'est véritablement retrouver Jésus. Celui en qui ils avaient cru, ils avaient mis toute leur espérance. D'ailleurs, les vieux cantiques que nous chantons, c'est ça, c'est le témoignage de tous ces martyrs, qui finalement, eh bien là, ils étaient sur la terre, mais ils n'aspiraient qu'à une chose, ils ont écrit des poèmes, ils ont écrit des cantiques extraordinaires pour démontrer leur foi dans une autre vie, bien sûr. Alors, Paul le dira, nous sommes, quant à nous, pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est vrai. Maintenant, nous croyons dans le Seigneur. Nous vivons avec Jésus. Nous vivons, nous l'adorons, nous le prions. C'est lui qui est notre vie. Nous l'avons entendu dans les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure. Mais néanmoins, qu'en sera-t-il de l'autre côté ? Ça sera quelque chose de sublime et quelque chose de merveilleux. Ça ne sera pas comme dans l'islam où l'homme arrivera, il se retrouvera avec 70 vierges. C'est pas ça notre paradis. Notre paradis, c'est autre chose. Quelle aberration. Mais dans le christianisme, il y a aussi ce genre d'aberration. On a tenu les gens dans la crainte et dans la peur. Lorsque le croyant quitte son corps, il s'en va pour être avec Jésus. Il s'en va pour être avec Christ. Il est absent de corps, mais il est présent avec le Seigneur. Ça sera fini, la vie, la vue. On marchera tout simplement de l'autre côté. Dans une autre dimension. Alors quel sera le caractère précis et défini de notre existence entre le moment où nous serons absents de corps, donc nous serons morts, nous n'aurons plus de corps, et présents avec le Seigneur? Ça, c'est une chose qui est tout à fait particulière. Nous allons revêtir et nous allons rentrer dans une demeure céleste, la Bible nous dit. La Bible est très avare peut-être d'explications, mais elle dit que cet état est beaucoup le meilleur, la vie éternelle pour le frère ou la sœur qui quitte cette terre, c'est quelque chose de beaucoup meilleur. Et ça exclut le purgatoire. Parce que, comme vous le savez, le brigand sur la croix, il a invoqué le nom de Jésus, il s'est tourné vers Jésus, il lui dit « Souviens-toi, lorsque tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu vas attendre 400 ans avant d'avoir purifié tous tes péchés et puis d'avoir... Non, pas du tout. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est encore une invention. Une invention qui prend des proportions ahurissantes. Et comment trouver les mots peut-être pour dire, quand on y met finalement la notion de l'argent? Ça, c'est encore un autre problème. Et de l'autre côté, ce n'est pas l'état d'inconscience, nous l'avons lu dans le texte, quand il nous est dit que quand le mauvais riche est trouvé de l'autre côté, Lazare est mort, lui il est mort, et il nous est dit qu'à un moment donné, il y a une conscience puisqu'il parle à Abraham, puisqu'il demande à Abraham, il y a une conscience de l'autre côté. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui nous parlent de l'anéantissement. Non, ça c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir de morale, hein, puisqu'on est anéanti. On disparaît. Ce n'est pas la réincarnation non plus. Imaginez-vous que vous mourriez de l'autre côté, en chat ou en souris. Oh. Non mais, attendez. On va aller un peu plus loin. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est Thessaloniciens, hein, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ, ceux qui sommeillent en attendant ce jour, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nos chers frères et sœurs que nous avons connus ici dans cette église et que nous avons nous connus personnellement dans d'autres églises, mais nous les reverrons. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Nos chers parents convertis à Jésus-Christ, je ne veux pas parler de ceux qui, bon, mais en tous les cas, ceux qui, peut-être même au dernier moment, qui ont compris cette phrase de l'Évangile, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, même à le dernier instant. On va peut-être avoir des surprises, hein. Moi, je souhaite des surprises heureuses. Alors, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous connaissez le petit chant en un clin d'œil? Ça va vite un clin d'œil, hein? Eh oui, ça c'est la doctrine biblique, hein, je n'invente rien. Il faut rester sur la parole de Dieu. Parce qu'autrement, on s'en va, on s'égare dans toutes sortes de considérations et des faux raisonnements. L'apôtre Paul dira ces mots dans 1 Corinthiens. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, c'est notre cas, mais comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est du négationnisme. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est plus ressuscité. Donc toute la Bible devient une fausseté et un mensonge éhonté. Mais Paul ajoute, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né, il est les prémices de ceux qui sont morts. Parce que puisque la mort est venue par un homme, dixit Adam. Ça tient à la doctrine, hein? Depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'épître aux Romains, hein, chapitre 4, chapitre 5, où il nous dit que le péché est entré dans le monde et qu'avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Voilà, hein, je passe très vite. Alors, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Adam a amené l'humanité à mourir, Jésus-Christ nous amène à la vie. Et pas seulement à une vie, mais une vie de renaissance, un renouveau dans la vie, une vie nouvelle, tout simplement. Et comme tous en Adam sont morts, de même aussi, tous revivront en Christ, parce que ça c'est quelque chose qui est notre espérance. Nous mettons, mes frères et sœurs, ou mes amis qui sont là, qui connaissaient peut-être rien à la Bible ou à l'Évangile, moi je vous demanderai qu'une chose ce matin, soyez attentifs, et si vous invoquez le nom de Jésus, que vous vous approchez de lui, et que vous lui demandez pardon de vos péchés, vous êtes sauvés. C'est plus simple que les mortifications. C'est plus simple que de se mettre entre quatre murs tout le reste de votre vie pour essayer de vous racheter. Jésus nous a rachetés. C'est lui qui a tout fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est beau, hein? Je vois votre enthousiasme. Avec l'avènement de Jésus-Christ, les corps de ceux qui se sont endormis en lui ressusciteront. Non pas précisément dans le même corps, hein? Ne vous attendez pas que je porte la même cravate. Dans le même corps, tout comme le grain qui germe n'est pas exactement le même que celui qui était semé. Parce que là, Jésus nous donne, dans l'évangile de Jean, une formidable leçon sur le grain de blé qui va tomber en terre, qui va disparaître, sinon une chose va rester, c'est le principe de la germination, la vie en lui-même. Et à ce moment-là, un grain va emporter 10, 100, 20, 30, etc., tout ce que vous voulez. C'est une vie nouvelle. Et nous avons, de par la nature, l'enseignement que Jésus nous donne, mais nous l'avons sous les yeux. Si vous mangez du pain ce midi, c'est parce que justement, il y a eu ce principe de vie. Et ça, c'est pour les végétaux, mais pour nous, les humains. Pour l'humanité, c'est autre chose. La graine qui est jetée en terre se désagrège. Et la plupart des éléments qui la composent disparaissent et on ne sait pas où ils vont. Si vous revenez 15 jours après l'avoir semé en terre, vous allez voir finalement que tout ce que vous... Le petit grain que vous avez mis, il n'est plus du tout le même. Par contre, une petite tige va sortir. Et c'est la vie. Ainsi en est-il de la résurrection, nous dit la Bible. Je continue encore. Nous savons en effet, c'est Paul qui le dit, que si cette tente, si ce corps dans lequel nous sommes enfermés, où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire la mort, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La terre, c'est la terre, le ciel, c'est le ciel. La terre, c'est la matière, c'est en voie de disparition, le ciel, c'est éternel et c'est spirituel. Et nous sommes appelés à cette dimension, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Quand Jésus, et nous l'avons vu, nous dit tout simplement, mais si quelqu'un croit et vit en moi, il ne mourra jamais. Mais c'est ça ce qu'on est en train d'expliquer actuellement. Il ne mourra jamais. Une vie nouvelle va sortir de nous. Elle est déjà à l'état embryonnaire. La vie que nous avons par notre nouvelle naissance, notre rencontre avec Jésus, c'est le petit grain de blé qui commence à germer. Et plus nous allons aller, le jour où nous serons recueillis, dans la présence de Jésus, le jour où nous mourrons, les choses sont prêtes pour véritablement, eh bien, la moisson sera prête pour rentrer dans cette nouvelle habitation. À la résurrection, il nous sera donné à la place de notre corps terrestre, c'est-à-dire notre vie matérielle et physique, un édifice, une nouvelle création qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, si je reprends les mots de la Bible, qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous, nous sommes sortis d'une femme, fille ou garçon, ça, c'est l'homme. C'est ce qu'on avait appelé la prévie, avant la vie, l'état embryonnaire. Bien sûr, c'est comme ça, c'est le principe de la création. Mais maintenant, nous allons rentrer dans une autre dimension, et cette dimension n'a plus rien à voir avec le physique, le matériel, mais elle est spirituelle. À ce moment-là, ce qui est mortel sera englouti dans la vie, nous l'avons vu tout à l'heure. Encore un peu plus loin, c'est Paul qui déclare ceci dans Philippiens. Mais pour nous les chrétiens, nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'attendons, qui transformera notre corps de misère, de souffrance, de peine, de maladie, de toutes sortes de choses, notre corps vil, d'humiliation, et il le rendra conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous aurons et nous revêtirons un corps glorieux, semblable à celui de Jésus lorsqu'il est ressuscité. Et on va en parler quelques instants. Comment Jésus est-il ressuscité? Il n'est pas ressuscité pur esprit, on ne l'aurait pas vu. Il est ressuscité avec un corps de chair et d'os, mais glorifié. Glorifié. Lorsque Jésus reviendra à son avènement, Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux. C'est pour ça qu'il est venu. De l'humiliation qu'il a eue à la croix, il est monté glorieux au ciel et il revient pour que sa gloire soit aussi la nôtre avec lui. Alors on va dire quelques mots sur les traits caractéristiques du corps de résurrection. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est Paul qui dit ceci. Mais quelqu'un dira, quelqu'un qui conteste, quelqu'un qui ne comprend pas, mais quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? La réponse de Paul, c'est insensé. Voilà. Tu es fou de poser une question comme ça. Et il ajoute, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est le principe qu'il faut mourir avant de renaître. C'est le principe qu'il faut mourir, mourir à soi-même avant de renaître dans une autre dimension. D'un être nouveau. C'est le grain de blé qui doit mourir pour renaître. Et Paul le dit d'une manière très explicite. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il faut qu'il meure. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas un corps qui naîtra comme celui que nous avons. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alors ne posez pas de questions à Dieu en disant « Quand je reviendrai, mesdames, je voudrais ressembler à Madonna » ou « Je voudrais ressembler à Johnny ». Alors, ça ne rentre pas en ligne de compte, hein. Je voudrais être beau comme un Adonis. Alors, ça rentre pas en ligne de compte. Vous risquez d'être déçu, hein. Je préfère vous le dire. Parce qu'il est dit, comme Dieu le plaira. Et vous savez, notre corps nouveau, ce sera notre véritable identité spirituelle que nous aurons déjà préparée sur la terre. Ah, ça, c'est une chose extraordinaire et formidable, hein. Ouais. Ce ne sera pas le même corps qui a été déposé dans la terre, dans la tombe. Paul continue, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. » Et voilà ce qui nous conduit maintenant à autre chose. Ça ne sera pas un corps de chair et de sang uniquement. « Voyez mes mains, dit Jésus au moment de sa résurrection et quand il est rentré dans la maison. » Et là où notre brave Thomas a eu quand même des sacrés doutes. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. » Donc Jésus est venu ressusciter dans un corps, chair et os, mais il y avait une autre dimension. Et quand nous allons ressusciter avec le Seigneur, à ce moment-là, les choses de la terre, on n'en parlera plus, on ne s'en souviendra même plus, et nous ressusciterons à la dimension du ciel, c'est-à-dire le ciel est spirituel et nous revêtirons finalement les caractéristiques du ciel. Avec un corps quand même, avec une nouvelle forme de matière, si l'on veut dire, mais appropriée à la dimension du ciel. Je ne peux pas vous en dire plus parce que on ne sait pas plus, mais toujours est-il qu'il faut croire simplement à ces paroles. Voilà. Ce ne sera pas un corps purement spirituel, mais il sera formé de chair et d'os, mais avec les propriétés d'un monde infini, d'un monde qui ne parfait de l'autre côté. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sommé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est méprisable, il est impérissable, pardon, incapable de se corrompre. La corruption, c'est pour la terre, le ciel, ce sera la pureté parfaite. Il est sommé méprisable, il ressuscite glorieux. Nous saurons ce que c'est que la gloire. Quand nous voyons qu'aujourd'hui, que la gloire, c'est pour ceux qui sont, qui se glorifient de ceci et cela. Vous savez, la gloire humaine, c'est véritablement l'enterrement, hein, de l'enterrement de et la mise en avant de ce que peut être l'orgueil des hommes. Il sera glorieux. Il est semé infirme. Nos frères et nos sœurs qui sont partis dans la douleur, qui sont partis parce qu'ils étaient infirmes, parce qu'ils étaient vieux, parce qu'ils étaient au bout, finalement. Ils ressusciteront et nous ressusciterons si nous passons par là. Aspirant à la délivrance de nos souffrances et de nos douleurs, nous ressusciterons, nous ne connaîtrons plus jamais ça. Ça, c'est extraordinaire. Il est sommé infirme et il ressuscite plein de force. Plein de force. Toutes nos fatigues, tous nos labeurs, nos peurs, nos craintes, nos larmes, nos faiblesses auront disparu à jamais. Le corps sera capable, à ce moment-là, ce corps nouveau, de faire entièrement et parfaitement la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Elle a très peu été faite sur la terre, mais au ciel, elle sera faite et remplie complètement. Et nous serons finalement en capacité de faire la volonté de Dieu. Il n'y aura plus que ça. Et cette volonté, elle est bonne, elle est parfaite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Oui, nous sommes de la terre, nous sommes terrestres. Nous sommes le second, c'est celui qui est né de nouveau. Eh bien, nous sommes du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors les justes, nous dit un passage dans l'Ancien Testament, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, nous dit Jésus. Oui, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans le livre de Daniel, il nous est dit que tous ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Quand Jésus a été transfiguré, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Quand Jésus a été transfiguré, devant les disciples, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. la transfiguration. Tout ça, c'est une chronologie, c'est quelque chose qui se fait naturellement et qui se fera. C'est peut-être un peu compliqué ce matin, hein, ça va ? Mais c'est quand même la réalité de la doctrine de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Je n'irai pas jusqu'au bout dans ce... Par contre, la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes. Ça va ? Vous êtes tranquille, mesdames. Non, c'est pas moi qui le dis, hein. Je me garantis quand même. C'est Jésus qui le dit, non ? Ils ne prendront plus de femmes, ni les femmes des maris. On va se débrouiller pour faire la cuisine, mais enfin bon. Mais ils seront comme les anges du ciel, comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, quand on dit à quelqu'un « tu es mon ange », ben vous savez pas de qui vous parlez. Hein. Ils seront comme les anges dans le ciel. On sera semblable aux anges. On ne se mariera plus. Et on ne pourra plus mourir. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il, et ça revient et continuellement, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps différeront les uns des autres, on se reconnaîtra. Non pas par notre aspect physique, je pense pas, mais par notre identité morale et spirituelle. Quand il est parlé de la sanctification, c'est qu'il y a une réalité. Hein. Parce qu'à ce moment-là, nous tendons dans notre vie ici-bas, dans notre corps de matière, à ressembler à Jésus de plus en plus. Et quand nous arriverons dans la perfection, eh bien les choses seront faites. Et là, ça sera quelque chose, naturellement. Et je voudrais dire également que le corps de résurrection sera le point final de notre adoption. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles, nous avons prêché déjà sur l'adoption. Hein, l'adoption. Et ça sera véritablement le revêtement de notre qualité de fils de Dieu. Oui, nous sommes des fils des hommes, mais de l'autre côté, nous porterons comme celui qui est venu pour nous annoncer l'évangile, où Jésus est appelé souvent le fils de l'homme, mais nous serons, nous, non plus seulement les fils des hommes, mais nous serons les fils de Dieu. Et ça sera la preuve manifeste que nous sommes des enfants de Dieu. Tout ça, ce sont des textes, hein. Avant son incarnation, c'est-à-dire la préexistence de Jésus, il nous est dit dans Philippiens, c'est ce qu'on appelle la kénose en théologie, Christ était venu en forme de Dieu. Hein. Il était en forme de Dieu avant de venir. Et après, il a pris la nature de l'homme pour nous apporter finalement eh bien, ce que nous avions besoin de savoir sur Dieu venu parmi les hommes pour les sauver, c'est-à-dire une apparence visible de Dieu. Et l'apparence visible de Dieu, c'était pas quelque chose d'éblouissant quand Jésus est venu. Il n'avait rien pour attirer nos regards, nous dit Ésaïe. Mais néanmoins, c'était Dieu. Et il a prouvé que Jésus est en Dieu et Dieu est en Jésus. Montre-nous le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. À cause de toute cette majesté, cette souveraineté divine qui transparaissait à travers la vie humaine de Jésus, et c'était véritablement le caractère même de Dieu. Il en sera de même à la résurrection. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. En un clin d'œil. Thessaloniciens nous dit en un clin d'œil. Jésus va revenir une première fois. La deuxième fois, on ne parlera pas parce que c'est le jugement. Mais là, il vient chercher finalement ses enfants qui ont cru en lui. Au retour de Christ et la résurrection, ceux qui dorment en Jésus. C'est pas l'inconscience, hein. Les croyants alors vivant sur la terre, se joindraient à ceux qui seront ressuscités tous ensemble. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'insensé, c'est quelque chose d'impensable, ça semble fou, mais c'est comme ça. Et il faut le croire de tout son cœur. Et Jésus le dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre direction, c'est la présence de Jésus. On ne va pas autre part, hein. On ne va pas autre part. Je terminerai sur cette dernière implication très rapide. Où seront les croyants de l'autre côté? Dans Jean, il nous est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme il nous l'a dit que c'était vrai, alors on n'a pas pensé que c'est faux. Je vais vous préparer une place. Nous habiterons un lieu préparé pour nous par Jésus lui-même, et c'est dans un but d'éternité, c'est pas transitoire, purgatoire exit. Et c'est dans un but qu'il revient pour nous amener à notre destination finale. Nous serons un peuple préparé à occuper une place que Dieu a mis de côté pour nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ, déjà sur la terre pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous les accomplissions, mais de l'autre côté, nous aurons un rôle. Il y en a certains qui ont dit, de toute façon, on passera tout notre temps à prier et à adorer. Non, nous aurons une tâche. Nous aurons certainement, là, quelque chose à faire de l'autre côté, mais une dimension qui sera tout autre. Si nous avons été fidèles sur la terre, il y aura la récompense des fidélités de l'autre côté. Nous habiterons un lieu préparé. Nous serons un peuple préparé à occuper une place. Et c'est ce que Jésus appelle les demeures dans la maison de mon Père. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que ceux qui ont eu la foi, ils attendaient la cité qui a de solides fondements, ça c'était pour les hommes de l'Ancien Testament, qui n'avaient qu'une connaissance très superficielle et précaire du sujet que nous abordons aujourd'hui. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Nous serons dans une cité, c'est le mot, hein, qui a des fondements dont Dieu est l'architecte, le constructeur, une partie meilleure, une patrie meilleure que celle-ci, un pays céleste, une cité préparée pour nous, préparée par Dieu lui-même. Vous savez, les analogies que nous trouvons entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'histoire des Juifs qui rentrent dans le pays de Canaan, c'était quelque chose de très matériel, c'était leur patrie, ils l'ont encore, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Mais ça, c'était que des réalités terrestres. Mais de l'autre côté, nous nous attendons une patrie. Ça ne sera pas Canaan. Ça ne sera pas le pays où coule le lait et le miel. Ça sera encore autre chose et infiniment meilleur que ce que les Hébreux ont connu quand ils sont sortis d'Égypte. Et les caractéristiques pour terminer de cette cité. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous en cherchons et nous cherchons celle qui est à venir. Elle sera immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je ne vis point de temple dans cette cité, dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, et ainsi que l'agneau. Le temple dans le ciel, c'est Jésus, et c'est Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Nous irons adorer, non pas dans un édifice quelconque, une basilique, une église, une salle comme celle-ci, mais nous nous prosternerons devant Dieu et devant Jésus, et nous les verrons face à face. Parce que sur la terre, nul ne peut voir Dieu et sa gloire, autrement il meurt. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. On comprend, en parlant de Dieu, hein, naturellement. La ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Jésus dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde, quand il était sur terre, et là il pourra proclamer, il peut déjà le proclamer, je suis la lumière du ciel éternel. La cité n'a pas besoin de soleil pour l'éclairer, car c'est la gloire de Dieu qui va éclairer à ce moment-là. Paul a eu une idée pour mettre cela en forme, a eu une idée de cette lumière éblouissante sur le chemin de Damas, le jour où il s'est converti. Vous vous souvenez? Une grande lumière a jailli, il est tombé par terre. Et là, à ce moment-là, il était ébloui, il est devenu aveugle pendant 3 jours, et c'est à ce moment-là qu'il s'est converti. Quand vous demandez « Envoie-moi la puissance », « Montre-nous ta puissance, Seigneur !» Le Seigneur nous dit, écoute, à force de demander la puissance, tu ferais mieux de compter sur ma suffisance, au lieu de demander des chances transcendantes. Parce que si je te montrais vraiment ma puissance, tu vivrais pas. De l'autre côté, nous pourrons et nous serons en capacité de supporter la gloire de Dieu. Il nous est dit que dans cette cité, ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. C'est bien, hein ? Les voleurs, ceux qui percent et dérobent, ça n'existera plus. Les portes ne se fermeront pas. Comme ça, je ne perdrai plus mes clés, ce qui est quelquefois un bon problème. Il n'y aura pas de nuit, ça sera la sécurité parfaite. Il n'y aura plus de ténèbres. Ceux qui ont peur du noir, eh bien, ça sera la lumière. Il n'entrera dans cette cité rien de souillé. Personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Dans les pages du livre de l'agneau, notre nom est déjà inscrit dans le livre le jour où nous avons confessé Jésus et que nous nous sommes convertis. Notre nom est déjà inscrit dans le ciel. Rien de souillé, rien d'abominable, aucune fausseté, aucune débauche, aucune ordure, aucune tromperie. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Vous savez, le cristal, c'est véritablement le verre que le plus pur qui soit, hein, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville, et sur les bords de fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, et rendant chaque mois son fruit, et qui servait à la guérison des malades. Un fleuve d'eau vide, limpide comme le cristal, sortira du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur ses bords, il y aura l'arbre de vie. Ça vous rappelle rien? Le jardin d'Éden, chapitre 1er et chapitre 2 surtout. Tu ne mangeras pas du livre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-ci, je te l'interdis. Mais il y avait à côté l'arbre de la vie. Et les hommes, comme ils ont désobéi, eh bien, ils ont été privés finalement de l'essentiel, c'est-à-dire de la vie spirituelle, la vie de Dieu, parfaite et complète. Une dernière chose est de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Je m'arrêtais là, il y avait encore une suite, il y en aura une peut-être plus tard. Je ne vais pas concentrer les choses, mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons pu répondre à quelques questions ce matin, tout simplement, une vie nouvelle. Nous vivons par-delà la mort, nous ne serons jamais seuls, la preuve, on l'a vu. Dans l'attente de la résurrection, il y a un sommeil, qui n'est pas un sommeil d'inconscience comme nous avons nous sur cette terre, mais un sommeil pleinement conscient de la présence de Jésus, en attendant la résurrection. Nous avons cette assurance que nous sommes passés de la mort au péché, la mort à cette vie humaine, à une vie nouvelle. On a parlé des caractéristiques très, très, très succinctement de notre corps de résurrection, du lieu de notre bonheur dans le ciel, des caractéristiques des demeures éternelles, et nous pourrons continuer avec d'autres choses. C'est d'identification avec Jésus, entre autres, parce que finalement, de l'autre côté, eh bien, ça sera la perfection et le bonheur, la félicité, c'est ce que l'on dit, hein. La félicité éternelle. J'espère que ce sujet n'a pas été trop ardu, parce que j'y étais quand même avec des versets bibliques. Et c'est peut-être pas toujours ma façon de prêcher, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est important pour les enfants de Dieu, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous travaillions notre espérance et que nous ne vivons pas uniquement les choses pour les choses de cette vie, maintenant. C'est important, Dieu nous bénit, il nous donne sa grâce, mais que nous ayons une force, quelque chose d'extraordinaire pour espérer cette promesse que Dieu nous a préparé un royaume, le royaume des cieux. Et je le dis d'autant plus que si nous étions persécutés, si nous étions dans des conditions que d'autres sont, je peux vous dire que la terre allait rabaisser à ce moment-là parce que nous n'avons rien sur terre. C'est l'histoire du pauvre Lazare, hein. Il n'y avait rien sur la terre, mais il avait qu'une espérance, c'était le Seigneur. Mais le problème de notre monde chrétien occidental, c'est que finalement, en somme toute, on a peut-être confondu que le bonheur était déjà sur terre et qu'on s'en préoccupe pas trop, qu'on ne fait pas trop attention à cela. Mes frères et sœurs, quoi qu'il en soit, même si nous sommes heureux et que Dieu nous bénit, il y a quelque chose de plus grand et de plus beau, c'est ce qu'il nous a préparé de l'autre côté, et il faut se préparer à la dimension éternelle. Que Dieu nous donne sa grâce. Je le dis en comparaison avec toutes les doctrines où on a fait peur aux gens, avec des jugements, avec toutes sortes d'imprécations, en disant ceci et n'importe quoi. Non, non, on ne prêche pas ça. On prêche la grâce de Dieu dans le bonheur qu'il nous a promis. Si vous croyez en moi, celui qui croit et qui vit en moi ne mourra jamais. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est un sujet qui est compliqué. Un sujet compliqué pour aborder. Mais néanmoins, est-ce que nous aurions le choix de pouvoir trier dans les pages de la Bible ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas? Et pourtant, ce que tu nous as dit ce matin, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Qui doit même, comme Jésus l'a annoncé, il l'a vécu lui-même, tressaillir de joie à la délivrance qui vient, qui se profile à l'horizon. Et nous te remercions et nous te bénissons. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Moi, je te demande que tu visites mes frères et mes sœurs et que tu nous donnes, Seigneur, de ne pas nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a des souffrances, c'est vrai qu'il y a des chagrins et des larmes, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses semblables et nous les vivons, mais nous comptons sur ta grâce. Nous sommes, en effet, dans le Dieu qui nous a sauvés. Tu es notre consolation et tu es notre délivrance pour les choses d'ici-bas. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu es en train de faire germer cette petite graine dans notre cœur, cette petite graine qui monte vers le ciel, cette petite graine qui augure une vie nouvelle. Et nous l'avons déjà par la conversion et par la nouvelle naissance, mais elle atteindra véritablement toute sa dimension lorsque nous arriverons de l'autre côté, et quand bien même nous déposerons notre corps, eh bien, dans la poussière, une chose qui est certaine, même s'il y a, en effet, cette considération d'un corps qui disparaît, il y a en même temps et parallèlement, eh bien, cette vie, Seigneur, la vie de l'âme et la vie de l'esprit, qui, elle, demeure éternellement. Et ce que nous serons au ciel, c'est ce que nous avons été, ce que nous avons préparé, tout simplement à l'image de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous te remercions, parce que tu es vivant et tu es fidèle. Ainsi en est-il de la résurrection, ainsi en est-il de l'espérance des enfants de Dieu, qui dont la destinée est la foi en Jésus-Christ. Et merci notre Dieu, merci Jésus, bénis ton peuple et enseigne-le par ton Saint-Esprit, par-delà les paroles toutes simplement humaines. Merci Jésus, donne-nous et renouvelle-nous dans notre espérance. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.